Bon, merci. Et merci à Elodie pour un bel exposé. On n'en finira pas avec le conflit Savigny-Hegel ou école historique Hegel. Bon, j'ai beaucoup aimé, bien sûr. La première remarque que je veux dire, c'est oui, l'organicisme institutionnaliste dont tu as parlé, mais ça n'est pas dans l'école historique la coutume. La coutume n'est pas, pas la source au sens où je l'ai précisé tout à l'heure, la connaissance du droit dans une société développée, divisée selon le principe de division du travail. Et on sait que Savigny a lu Adam Smith, par exemple. Et non, et l'ouvrage, le livre si célèbre de Savigny, Berouf, comme, de la vocation, il ne dit pas de la vocation, de la coutume, de la législation et de la science juridique. Il dit la vocation de la loi, la vocation de la loi et de la science juridique pour notre temps. La coutume, ça, c'est une manière vraiment très historienne du droit et pas très compréhensive de la réalité de l'école historique, de ramener l'école historique à une théorie de la coutume. Ça, oui, ça, c'est peut-être l'école française historique. Et si Hegel voit dans l'école historique une école de la coutume, alors pardon, mais il se trompe. Il se trompe. Le grand pamphlet de Savigny 1814, le fameux Berouf, c'est entre législation et science juridique. Et d'ailleurs, il ne condamne pas la législation. Son problème, c'est plutôt la codification. Et là, il y a une grande différence. Il y a une grande différence parce que la codification, ça veut dire rassembler dans un seul texte, aussi long soit-il, par la voix du législateur, tout un savoir juridique. Et Savigny dit, non, mais bon, regardez ce qui s'est passé en France avec la codification du droit civil. Mais laissons d'abord en Allemagne, c'est pour ça qu'il est contre, la science du droit devenir ce qu'elle doit être. Et ensuite, dit-il, on verra bien, mais dans décennies, et ça viendra à la fin du 19e siècle, hein, la codification allemande du droit civil. Et on verra bien si on a besoin ou pas d'une codification. Et peut-être oui, mais bon, on verra. Donc, moi, la première chose que je veux dire, c'est, bon, non, c'est pas, l'école historique du droit n'est pas une école de la coutume. La coutume n'est que ce que Savigny appelle dans ce même texte de 1814, première grammaire juridique. Mais ce qui permet la connaissance du droit, c'est la science. C'est la science juridique. C'est la thèse de Savigny et celle de Pourtas, c'est celle d'un droit des juristes. Droit des juristes. Alors là, oui, là, contre l'opposition de Hegel porte davantage par rapport à ce que tu as dit, hein, sur le privilège des juristes à connaître. Or, il y a moi je n'ai parlé que de Savigny et Porta, mais l'école historique c'est un foisonnement, c'est compliqué. Or, il y a eu, plus tard, après la mort de Hegel, dans les années 1840, un grand conflit au sein même de ce que l'on appelle l'école historique. Et c'est le conflit entre les romanistes, ça c'est Savigny, c'est Pourtant, c'est quelques autres, c'est Bethmann-Hollweg, etc., Dorf, et puis la branche dite germaniste de l'école historique. Or, cette branche germaniste n'avait plus de cette prévention savinicienne contre la législation. Donc, la loi leur est apparue comme un moyen de dire le droit populaire, mais surtout, ils sont entrés en conflit, et alors directement avec Pourtant, parce que Pourtant était encore vivant à l'époque, pour opposer ce dont tu parles, c'est-à-dire dire non, il n'y a pas, pourquoi y aurait-il un privilège du juriste? Premièrement. Et deuxièmement, et pourquoi le droit du peuple allemand, ce serait le droit romain? C'est le problème. Il y a eu le conflit de la codification, 1814-1815, et puis à partir des années 1830-1840, juste avant la Grande Révolution de 1848, il y a eu le conflit de la réception. C'est-à-dire la réception en Allemagne du droit romain pour en faire un droit allemand. Et les germanistes sont arrivés en disant, mais pourquoi le droit romain serait-il le droit allemand? Donc, de cette école historique, qui ont reconnu Savigny comme un maître, qui sont aussi libres par rapport à eux, par rapport à lui, pardon, ils ont dit, non, mais le peuple, l'élément populaire, il a un mot à dire, il doit s'emparer de ce qui est droit. Et c'est un grand conflit, notamment par Georg Deseler, qui était le grand adversaire, qui a écrit un grand livre contre Pourtant, qui s'appelle Droit des juristes et droit populaire. Bon, ok, je ne vais pas m'attarder davantage là-dessus, mais dans l'école historique, en évolution elle-même, en tant qu'organisme, je ne sais pas si c'est encore un organisme, hein, mais dans l'évolution de cet organisme qu'on appelle l'école historique, où il y a eu la question, oui, mais si c'est un droit du peuple, alors ce doit être un droit populaire. C'est, alors, la législation a été reconnue, mais les points fondamentaux sur lesquels se sont attachés, auxquels se sont attachés les humanistes, c'est le jury populaire, c'est l'échevinage, c'est-à-dire la participation de membres non juristes, non professionnels, non privilégiés, puisque tu as parlé de ce privilège, à l'élaboration du droit au sein même des juridictions, c'est-à-dire du développement de ce droit. Ça, bon, ça dit rien contre Hegel, mais ça dit rien contre ce que tu as dit. Ce que je veux dire, c'est l'école historique, elle s'est développée de manière qui n'est pas nécessairement dans ce droit des juristes. Mais l'école historique n'est pas un droit de la coutume. Ça, c'est une vision française, parce que ce qu'on appelle l'école historique française, bon, c'est une école du droit coutumier. Pas vraiment l'école. Deuxièmement, tu as dit, ah oui, mais le principe fondamental du droit, ça doit être la personnalité libre. Mais même si je lis, alors, Savigny et Pourtant, c'est le principe aussi. C'est le principe aussi. C'est-à-dire qu'on a parlé d'un libéralisme du droit civil, du droit privé. Et c'est juste. Le droit, les droits subjectifs, parce que ce sont quand même des grands penseurs du droit subjectif, et de penser qu'à la base du mal, il y a la personnalité libre. Et j'aurais pu citer d'autres passages du texte pour l'égard. En fait, et pour le dire d'un mot, moi je ne connais pas de texte, mais peut-être il faut que je me renseigne davantage, que je lise davantage. Je ne connais pas de texte de l'école historique où ils auraient justifié, voilà, justifié l'esclavage. Ne connais pas, mais peut-être ça existe. Je crois que le problème qui s'est posé à l'école historique, dans son propre développement, indépendamment de Hegel, a été celui du conflit entre droit savant et droit populaire. Et il est inscrit dans les principes même de ce conflit. On a reproché à Savigny, Pourtant et les autres, et les romanistes, c'est bien, droit, c'est un droit savant. Et vous dites que c'est le droit du peuple. Bon, alors, je crois qu'il aurait pu y avoir, plus tard, si Hegel avait vécu plus longtemps, non pas une réconciliation, enfin. Ben, ils auraient pu se rencontrer d'une manière ou d'une autre. Ensuite, la dernière chose que je veux dire, c'est je crois que si je reviens à Savigny et Pourtant, le problème que tu poses, c'est la question de l'État. La question fondamentale, c'est la question de l'État. Or, il n'y a pas de droit public dans l'école historique romaniste, chez Savigny, chez Pourtant. Pour Savigny, l'État n'est que l'enveloppe extérieure, l'enveloppe formelle, ça lui suffit. On lit le traité romain, enfin, le système actuel du droit romain. Et c'est tout. Il n'y a pas plus sur l'État. Il y a pratiquement rien. Et chez Pourtant, on ne trouve pas davantage sur l'État. Donc, moi, je crois que vraiment là où le conflit se noue, vraiment, c'est sur cette question de l'État. Évidemment, chez Hegel, c'est je fais un geste, ça veut dire ce que ça veut dire. Et pour l'école historique romaniste, c'est rien. C'est rien. Donc, voilà. Et ça induit la question de la législation. Si l'État, pour Savigny et Pourtant, n'est que l'enveloppe extérieure, alors l'État, sa législation doit être limitée. Parce que il n'est pas dans ce que j'ai appelé, pour dire simplement, non, dans cette nécessité interne de la conscience populaire. Et voilà. Les premières réactions. L'État, je pense que Pourtant distingue le réel et l'effectif d'une manière ou d'une autre. Mais l'État, pour eux, c'est pas dans l'effectif. Et ça change tout. Merci.
Merci beaucoup Olivier pour toutes ces, voilà, j'ai tout noté. Je voudrais simplement dire tout ce que donc Denis Barranger a dû partir parce qu'il devait faire court. Voilà, il présente ses excuses pour ce départ précipité. Enfin, dès lors, Thibault, je veux bien si ça t'ennuie pas que tu m'aides à.
Bien sûr, que je
Voilà.
fasse le modérateur.
Merci beaucoup. Et en fait, je souhaite vraiment répondre à tes questions, Olivier. Toutefois, je vois que Jean-François Kervégan levait la main depuis un long moment, donc je voudrais et comme j'ai parlé très longuement, je voudrais lui laisser la parole s'il le souhaite toujours.
J'avais baissé la main, en fait, parce que j'estimais que j'avais plus grand-chose à dire. Vous m'entendez?
Oui.
Non, Je voulais dire deux choses, mais ça vient de ressortir dans les propos d'Olivier Jouangean. C'est qu'effectivement, là, je suis d'accord avec lui. L'opposition entre Savigny et Hegel, c'est plutôt l'opposition entre un tenant du professeur Brecht, qui est Savigny, et celle d'un étatiste, si l'on veut. Et je voulais juste citer, parce que c'est très révélateur, une expression de Hegel qui se trouve, je crois, dans une lettre où il parle, je ne me souviens plus exactement dans quel texte, mais enfin, je ne l'invente pas, où il parle du grand professeur de droit constitutionnel qui siège à Paris. Et quand on lit la phrase, on se dit, mais c'est qui ça? Et puis après, on comprend, c'est Napoléon. Et c'est tout à fait révélateur. Le grand professeur de droit constitutionnel, et on pourrait dire le grand professeur de droit en général, c'est Napoléon Bonaparte. C'est-à-dire, disons, l'État, c'est l'État qui produit du droit, qui codifie le droit, etc., et pas les juristes. Ça, je trouve, ça illustre tout à fait l'opposition des deux positions. Et l'autre chose que je voulais dire, alors là, bon, mes lectures de Pouchetard remontent à il y a une trentaine d'années, donc c'est très vague, mais je crois que ce qu'a dit Olivier à propos du fond schellingien de l'argumentation de Pouchetard est profondément exact. Et en l'écoutant, je me remémorais l'écrit de Schelling sur la liberté humaine et le jeu qu'il fait sur Grund, Urgrund, Ungrund. Cette idée que la liberté repose sur un fond sans fond de négativité qui est première, et c'est tout à fait ça. Là, j'abonde tout à fait dans le sens de ce qui était dit. Voilà, j'ai fini.
Merci beaucoup. Élodie, peut-être que tu veux répondre très rapidement de façon à laisser le temps éventuellement pour une ou deux questions du reste des invités après ça, parce qu'on a déjà beaucoup avancé.
Oui, je voulais aussi remercier Olivier pour son exposé extrêmement riche et pour ses questions. Je lirai les deux questions, coutume et état. Enfin, j'ai l'impression que quand même le peut-être, je sais pas si tu serais d'accord pour le dire de cette manière, mais je crois que le point de désaccord, c'est quand même sur la figure du législateur. Mais par quoi on retombe aussi sur la question révolutionnaire contre révolutionnaire, hein. Enfin, il y a quand même, ce qui est devenu maintenant, ce qui est ensuite devenu un topos de la contre-révolution, mais cette dénonciation de l'arbitraire du législateur qu'on retrouve quand même, presque à longueur de page, hein, dans le Fun des Roufs, cette idée que, la loi, c'est l'artificiel, c'est l'arbitraire du législateur. À quoi Hegel oppose, avec des arguments qui sont, me semble-t-il, somme toute assez hobbésiens, que, sous couvert d'éviter l'arbitraire du législateur, on se retrouve finalement avec autant de législateurs qu'il y a de juges dans la position savinicienne, ce qui fait qu'on augmente juste le taux d'arbitraire dans la chose. Donc, ça répond pas complètement effectivement à l'objection. Savigny, penseur de la coutume, de toute façon, tu connais évidemment mieux que moi, donc je te crois assurément sur évidemment si tu le dis. Moi, j'ai quand même dans le Fun des Roufs, alors je suis d'accord que en fait, j'ai l'impression que ce problème-là, c'est plus celui des sources du droit, là. Enfin, clairement, qui est en jeu plutôt que celui de savoir. À travers l'idée de, certes, la coutume, c'est seulement la première manifestation quand la science du droit n'est pas encore, et de la législation d'ailleurs, n'est pas encore pleinement élaborée avec ce rapport immédiat de la chose. Enfin, immédiat justement, c'est une adhésion immédiate des individus et des membres du peuple à cet aspect de leur vie, développement organique qu'est le droit. Pour autant, ce qui est valorisé, valorisable, enfin, oui, l'insistance c'est sur le caractère vivant. Alors, il y a deux aspects, oui, enfin, le caractère vivant non figé. et qui est censé être beaucoup plus évolutif du droit coutumier que, en tout cas, de la loi. Alors, surtout, horreur si elle est faite par un législateur étatique. C'est plutôt, et j'ai l'impression que là, c'est après, enfin, je suis heureuse qu'on détecte aussi la question de l'État, enfin, et de qui, enfin, cette question de qui est l'interprète de l'esprit du peuple comme une question fondamentale, à la fois théoriquement et politiquement, mais théoriquement, j'ai quand même l'impression que c'est, ouais, l'un des points fondamentaux. Ensuite, sur l'esclavage, tu as entièrement raison. Moi, je m'appuyais pas du tout. Je n'ai pas trouvé chez Savigny de défense de l'esclavage. Là, il s'agissait moins de, enfin, comment dire, la prétendue institution de l'esclavage l'enjeu de l'argumentation du paragraphe 57, là, c'est plutôt de pointer une position, en l'occurrence la position historiciste, et peu importe au fond, alors même si évidemment l'esclavage ça importe parce que c'est la question de la personnalité, mais c'est plus là la détection d'une position et d'une manière d'argumenter, justifier une chose, et l'idée de renvoyer malgré tout la dos à dos. De détecter une antinomie ou en tout cas une abstraction de part et d'autre du côté du droit naturel comme du côté de la position historiciste. C'était plutôt sur ce point, mais j'ai déjà été trop longue, donc mais bon, j'espère, voilà, merci Olivier, j'espère qu'on aura sans doute de toute façon le j'espère.
Merci Élodie. Peut-être une question d'un participant, monsieur Latrèche. Très rapidement, parce qu'on est malheureusement contraint par le temps maintenant.
Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien ?
Oui.
Oui, bonjour. D'abord, merci pour les deux présentations. En fait, justement, je voudrais rebondir sur, parce que je n'arrivais pas à formuler la question que je voulais poser, mais je voudrais rebondir du coup sur la question de l'État qu'a soulevé le professeur Jouan-Jean. Et justement, est-ce que dans la conception de Savigny, par rapport en fait à cette question de l'État et de qui est le législateur, est-ce que en fait on serait pas en fait à une différence entre Savigny et Hegel de, on va dire, à une différence de niveau, entendu comme Savigny entendrait le, est-ce qu'on pourrait dire que Savigny entend la question du législateur comme un modus operandi qui du coup devrait prendre en compte une foultitude de questions qui touchent à l'histoire, à la société et à la conscience du peuple, pour pouvoir élaborer justement à travers peut-être des opinions et peut-être un consensus une législation qui soit à même d'être la plus pertinente, tandis que Hegel se placerait peut-être plutôt du côté de l'opus operatum, c'est-à-dire du droit tel qu'il est et qui serait le fruit d'une raison pure. Enfin, peut-être pas que c'est le bon terme, le terme pur. Donc ça, c'est ma première question. Et la seconde question que je voulais poser, justement, ce serait par rapport à la question de l'esclavage. Donc, si j'ai bien compris la position de Hegel pour réfuter les thèses de l'école historique, il s'appuie sur le fait que, en fait, cette question de l'analyse d'une institution passée, elle aboutirait en fait à finalement une lecture un peu fixiste de cette institution qui devrait se perpétuer à travers le temps, et j'ai l'impression qu'elle est liée à la question du fait que lorsque Hegel dit que il s'occupe plutôt que de s'occuper des concepts, il s'occupe des valeurs, si je me souviens bien. Et en fait, ma question, c'est justement, est-ce que la résolution de cette antinomie, elle viendrait pas en fait plutôt d'un repositionnement constant du juriste qui s'appuierait sur on va dire une lecture historiciste, mais d'une relecture constante à travers un déplacement épistémique pour remettre, pour réactualiser en fait des concepts du passé à une situation présente et les faire concorder à la conscience du peuple. Voilà, je ne sais pas si c'était clair, mais C'était ma question.
Mais merci pour vos questions. Peut-être qu'elles convergent, je crois, vers le rôle du législateur, effectivement, qui est central dans l'État. Et peut-être que le professeur Jean-Jean pourra y répondre en quelques mots, professeur.
Non, je crois que la question de la législation, c'est pour Savigny et l'école historique romaniste, j'insiste à nouveau, la législation, elle peut avoir des vertus rectrices, des vertus explicatives, mais le problème de Savigny, c'est vraiment celui de la codification, c'est-à-dire de légiférer sur l'ensemble, sur la totalité d'un droit civil. À l'époque, ce qui se pose, c'est la question d'un droit civil. On va revenir sur les tenants et aboutissants de la querelle de la codification. Ensuite, alors le fixisme de l'école historique, c'est une vraie question. Ça ne veut pas dire que, comme l'a rappelé Élodie, mais c'est dans le texte, dans ce texte très important de la présentation de la revue fondée, cofondée par Pascal Savigny en 1815 sur la revue pour la science, histoire du droit. Il ne s'agit pas, quand même, et ça, je crois qu'on peut l'accepter, qu'on peut le comprendre, d'en rester aux institutions romaines. Donc, et pas non plus, mais là, je cherche davantage, pas la question de l'esclavage. Je n'ai rien vu chez Savigny qui justifier, pour reprendre l'expression, il me dit l'esclavage aujourd'hui. Non, il y a quand même est historique cette école et elle pense l'évolution. Et je rappelle que pour elle aussi, pas seulement pour Hegel, le principe fondamental, c'est celui de la personnalité libre. Mais elle ne pense pas. C'est ça, pour moi, c'est la grande différence. Et c'est le point de litige, sans doute, entre l'école historique et Hegel. Elle pense cette personnalité libre dans la sphère du droit privé. Et on a parlé, pour moi, à juste titre, de ce que les Allemands ont appelé Privatrechtsliberalismus, le libéralisme de Savigny ou de Porta, dans le droit privé. Ce qui leur manque, et ça, je ne vais pas le contester du tout, hein, moi je ne prends pas la défense de l'école historique, mais ce qui leur manque, c'est de penser le droit privé. Et l'histoire, si vous voulez, du droit public en Allemagne, ça sera une grande histoire d'après Savigny et Pourtant, de la deuxième moitié. Et elle sera pas non plus parfaitement libérale, mais voilà. Mais la question de l'esclavage, ça m'intéresse. Il faut que j'aille voir ce qu'ils ont vraiment dit là-dessus. Ça serait très contraire à leur principe même.
Simplement, oui, enfin, pas. Pardon, monsieur qui, je sais pas, il est parti.
Non, je suis toujours là.
Et je vous vois plus, c'est pour ça. Je vois plus. Ouais, non, mais enfin, c'est le problème. Simplement, enfin, c'est sur le plan le versant Hegel en fait, l'argument de Hegel consiste là simplement. C'est pas une critique de l'école historique du droit à laquelle il imputerait la défense de l'esclavage. Hein. Là, c'est vraiment sur l'argumentation. Enfin, vous voyez, en fait, le raisonnement hegélien consiste à dire que, en gros, l'antiquité d'une détermination juridique ne la rend pas juste. C'est pas parce qu'une chose a été ou qu'elle est qu'elle est nécessairement juste. Et après, Olivier Jean-Jean a tout à fait raison. Enfin, effectivement, je crois que c'est aussi dans le Von Behrouff, en fait, la distinction entre le mort et le vivant dans le droit romain. Simplement, ce que dirait Hegel, c'est que, enfin, alors là, il le reproche plus explicitement à Hugo, c'est de dire, mais en fait, le problème, c'est que si on s'en tient à ce plan-là, disons, de rationalité, on est obligé d'aller effectivement chercher des raisons autres que des raisons strictement historiques pour arriver à faire ce partage entre ce qui est mort et ce qui est vivant, même à la rigueur dans le droit romain. Enfin, voilà, en fait, il reprend Hugo dit à un moment, il est bien vrai qu'il y a tout un tas de déterminations du droit romain qui ne sont pas très rationnelles. L'objection hegélienne consiste à dire, mais à partir de quels critères le dites-vous dès lors que vous ne reconnaissez pas justement autre chose que les faits? Et l'argument encore plus méchant, enfin suivant, consiste à dire, mais donc c'est arbitraire. Puisque vous choisissez des raisons en fonction au petit bonheur, la chance, en fait, pour décider que tantôt telle détermination est juste ou pas. Voilà. Mais je.
Non, mais je peux juste dire une chose. Oui, il s'adresse à Hugo, et je crois que Hegel ne voit pas la différence entre Hugo et Savigny, l'école historique. Et l'école historique n'a rien justifié par une institution positive de l'histoire. C'est pas du tout son propos. Donc, voilà, il a raison peut-être de faire ce reproche à Hugo, mais je crois que ça ne touche pas Savigny. Et je vais pas défendre Savigny, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vraiment pas une science historique positive au sens où, parce que c'était aussi le propos introductif de mon exposé, c'est que, voilà, c'est. Qu'est-ce que ça veut dire une science positive? Et que dit pour ça, c'est quand même, on peut pas, non, c'est pas l'histoire positive et surtout cette histoire extérieure qui peut nous donner la justification, l'injustifiable, je vais en prendre un terme. Mais, non, donc je crois que il y a une grande. Je pense que la grande ligne de clivage est dans l'État, comme j'ai essayé aussi de le dire dans la notion de l'esprit et de l'histoire mondiale, mais c'est faux de la part de Hegel de rabattre l'école historique dans un positivisme, l'expression n'existait pas encore, mais on voyait bien déjà ce que ça voulait dire. Et précisément, j'ai cité le texte, et j'ai donné le texte de Pourtas, où il dit, non, on n'est pas des positivistes. Hein. On fait pas de l'histoire comme ça. On fait pas de... Mais bon, c'est un grand malentendu, un grand conflit, mais il faut essayer de pointer exactement où se trouve le conflit. Pour moi, je le répète, un des principes, c'est la conception de l'État, la notion d'État. Là, il se joue quelque chose de fondamental.
Merci beaucoup.